se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On discute, on débat avec les grandes gueules. Aujourd'hui, on débat de cette proposition de loi de la députée Les Républicains, Frédérique Meunier. Elle est élue en Corrèze, donc le désert médical, elle connaît. Elle estime qu'aujourd'hui, il faudrait aller piocher dans le vivier des recalés en médecine, des étudiants en deuxième année, mais qui sont recalés à 0,1, 2, 3 points, en disant c'est dommage de se passer de ces talents, on pourrait les prendre et continuer leur formation, c'est ce qu'elle dit, leur formation, et les installer dans les déserts médicaux. Alors, Étienne soutient cette proposition, qui est balayée, pulvérisée par Joël Olivier et le docteur Marty. Mais qu'en disent les Français qui nous suivent et nous écoutent attentivement? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette proposition de loi? Oui ou non? Oui ou non? On y va. On va regarder la tendance. Ensuite, on va au 32-16. Non 57-43.
Ah, mais c'est assez serré.
C'est serré quand même.
Ah, quand même, vous avez un avantage certain.
Je peux poser une question à Étienne parce que moi j'y vois quand même deux problèmes. Déjà, c'est un peu quand même le culte de la médiocrité, c'est-à-dire que on n'a pas l'examen, mais c'est pas grave, on te repêche quand même. Je suis pas sûr que Madame Meunier envoie un très bon message à nos jeunes. Bon, finalement, vous n'avez pas le diplôme, mais comme on manque de bras, on vous engage quand même. Et puis la deuxième chose, ça donne l'impression qu'on va réserver donc à ceux qui n'ont pas de médecin, donc c'est souvent en ruralité, à la campagne, etc., des gens bon, qui ont été recalés. Et puis les bons médecins, c'est pour la ville. Donc ça va encore plus accentuer la fracture qu'en France on connaît entre effectivement ceux qui sont bien lotis et puis les autres qui vivent dans des déserts médicaux ou des déserts tout court d'ailleurs.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est autre chose. C'est-à-dire que ce sont des médecins étrangers qui viennent travailler
avec
en France.
Avec de vrais diplômes. Eux, ils ont leur diplôme.
Mais justement, par exemple, ce que tu disais, c'est-à-dire que tu peux, quand tu es recalé, aussi aller suivre, passer tes diplômes à l'étranger. Mmh. Aujourd'hui, il est courant d'avoir des médecins, surtout à l'hôpital, des médecins qui viennent d'absolument partout dans le monde, des médecins qui ont été formés dans des formations différentes des nôtres, et on l'accepte très bien, même si on suppose que ce sont des gens extrêmement compétents. D'ailleurs, ça se vérifie. Il y a énormément de médecins roumains qui sont venus s'installer en France. A priori, ça pose pas un énorme problème de perte de qualité de la médecine. Et je pense que ils sont pas obligés d'accepter. Ils peuvent dire, ben non, je refuse, j'irai pas travailler dans ces conditions.
Non, mais Étienne, si tu permets.
Attendez, je voudrais juste dire que il faut faire la différence entre déontologie et pragmatisme. C'est-à-dire que, vu comme ça, ça peut paraître effectivement extrêmement barbare. Mais en réalité, le pragmatisme fait que dans un pays, quand tu dois gérer un pays, tu te dis comment je fais pour aller contre ce mouvement général.
On tire vers le bas.
Étienne,
regarde, c'est comme quand on embauche des profs au CAPES.
Il vaut mieux personne.
Non mais on embauche.
Est-ce qu'il vaut mieux personne?
Attends, on embauche des profs au CAPES qui ont maintenant 6 ou 7 sur 20. Mais c'est vraiment, on tire vers le niveau vers le bas. C'est
est-ce
ça,
qu'il vaut mieux
ça qu'on veut pour notre pays.
Est-ce qu'il vaut mieux personne?
Mais il faut revaloriser la médecine.
On est d'accord.
Il faudrait qu'on passe par le 32-16, comme ça tu pourras répondre aussi à ceux qui sont avec nous, en commençant par Fabien qui est dans Lyon. Bonjour Fabien.
Bonjour à vous.
Alors, est-ce que vous soutenez plutôt la proposition d'Étienne?
Alors, je soutiens la proposition d'Étienne, de la députée en question.
Oui, la députée soutenue par Étienne.
Moi, j'habite dans Lyon. Il y a deux départements en Bourgogne qui s'appellent Lyon et la Nièvre, qui sont des déserts médicaux, mais... c'est même plus des déserts médicaux parce que c'est une catastrophe. Je vous explique la chose. Moi, je suis diabétique de type 1, donc il me faut des renouvellements d'ordonnance assez souvent, etc., etc. Moi, mon médecin traitant, je mets entre 3 semaines et 1 mois à Auxerre. Donc, je suis à Auxerre. Hein. Je précise, 1 mois pour avoir un rendez-vous.
Grande ville, hein.
33 000 habitants.
Ben oui.
D'accord. Et il y a exactement 7 médecins généralistes sur Auxerre. 7. On a effectivement le CH, avec les urgences, et nous avons aussi SOS Médecins. Mais on va à SOS Médecins, il faut attendre 2h30, 3h, parce qu'il y a énormément de monde. On va aux urgences, je vous en parle même pas. Et moi, je voudrais savoir une chose. Pourquoi, le docteur Marty pourra peut-être me répondre, mais pourquoi Auxerre, 33 000 habitants, ou 35 000, je sais plus exactement, 7 médecins généralistes, Ouistreham, ville qui se trouve dans le Calvados, à côté de Caen, 10 000 habitants, 9 médecins généralistes.
Parce que c'est près de la mer.
Il n'y a pas que ça. Mais pourquoi une ville qui a 3 fois moins qu'une autre a tout autant, voire plus, de médecins généralistes?
Il y en a encore plus à Nice.
La cause, elle est protéiforme. Bien souvent, vous installez les médecins parce que vous avez des MSU, c'est-à-dire que vous avez des maîtres de stage qui vont former les médecins. Et plus vous avez de maîtres de stage sur un territoire, plus vous avez de jeunes qui s'installent. C'est ce qu'on a appelé le miracle aveyronnais, puisque dans l'Aveyron, qui est une zone désertique, on a beaucoup de maîtres de stage, et l'Aveyron ne souffre pas de désert médical à cause de ça. Donc une des solutions passe par là. Mais surtout, si vous voulez, la problématique, c'est que à l'instant où l'on parle là, tous, vous avez 15 à 20 000 jeunes qui attendent de s'installer, qui sont formés, qui ont bénéficié de la meilleure formation et qui mettent 10 ans à s'installer. Qui mettent 10 ans à s'installer parce que ce métier est devenu tellement difficile est tellement complexe au niveau de son installation qu'ils veulent être sûrs de réussir leur installation, et donc ils font des remplats, ils font des DU, des diplômes universitaires, ils restent à l'hôpital, etc. Ils mettent du temps. Et donc là, dans cette proposition de loi, on va aller prendre les premiers plutôt recalés, en leur disant, vous allez choisir médecine générale, encore une fois, moi c'est ça qui me choque le plus, hein, parce que c'est une spécialité parmi d'autres, hein, vous allez choisir médecine générale et vous allez pendant 10 ans aller vous installer dans une zone, en oubliant que les études de médecine c'est 10 ans et que donc souvent c'est pas une personne que vous parlez, c'est un couple. Et dans ce couple, souvent, la médecine est devenue le deuxième métier du ménage.
Eh ben oui.
Ça veut dire que le conjoint ou la conjointe a un métier plus technique encore
c'est
que la médecine.
Des déserts
comment
médicaux,
tu vas trouver
d'accord.
Comment tu vas trouver une profession pour le conjoint
ça,
ou la conjointe?
C'est pas lié à la loi.
Non, mais
c'est la réalité des déserts médicaux.
C'est là où je te dis que
tu trouves pas de taf.
C'est là où je te dis que c'est une solution bourrine, parce qu'on s'imagine qu'on va prendre la personne, on va dire allez, tu vas y aller 10 ans.
Fabien voulait te répondre. Allez-y, Fabien.
Alors, docteur, moi j'ai assez vécu dans toute la France. Si je prends l'exemple du Sud-Ouest, que bon, vous connaissez, moi je suis originaire de Bayonne. D'accord. Donc la côte basque, si on prend la côte basque, la côte landaise, la côte basque, de Bordeaux à Bayonne. Alors on va prendre la côte. Nous trouvons facilement des médecins. Bien vous sûr. Allez dans une petite ville de 7000 habitants qui s'appelle Saint-Palais, vous en avez deux. Et on est effectivement qu'à 15 km de Bayonne. Il y a l'autoroute, il y a tout ce qu'il faut. On dit, je vais prendre l'est de la France, la Meuse. Vous allez dans la Meuse, vous avez du mal à trouver un médecin. Oui. C'est général. Et pourquoi on prendrait pas ces gens qui ont loupé l'examen à très peu de points, je parle. Alors, je suis contre les 7 ans d'imposer. Mais pourquoi on prendrait pas ces gens-là, qu'on les formerait pas? Parce que c'est du rattrapage.
Mais parce que la médecine générale est une spécialité parmi tant d'autres, et que dans les premiers recalés, c'est pas forcément des gens qui voulaient faire médecine générale.
On va en parler. Je remercie Fabien.
On est tous comme ça, la frustration, ça existe.
Je remercie Fabien d'avoir été avec nous, Fabien.
C'est frustration,
qui nous appelait de Lyon.
C'est des gens à qui tu vas donner ta vie.
Mais oui, c'est ça.
Tu peux pas quand même te faire soigner par quelqu'un qui
moi, je suis désolé, j'ai pas envie de confier mon existence à quelqu'un qui n'a pas envie de se faire ça. Enfin. C'est pas la même chose
que Christophe. Bonjour Christophe.
Il y a beaucoup de médecins qui voulaient devenir spécialistes et qui sont médecins.
Mais Étienne, ça n'existe nulle part, le système que tu préconises. Mais non, nulle part.
Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Infirmier aux urgences en Seine-et-Marne. Salut Christophe. Que pensez-vous de cette proposition de loi alors?
Je la trouve ridicule, personnellement. Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, moi je suis à l'hôpital aux urgences. L'hôpital croule sous les plaintes des patients, etc., etc., diverses et variées. Les erreurs de diagnostic, ça peut arriver à tout médecin. Comment vous justifiez aujourd'hui, techniquement parlant, une erreur de diagnostic par un médecin qui a été repêché et qui était recalé, donc non réellement diplômé? C'est l'État qui paye dans ces cas-là?
C'est une bonne question. Eh oui. C'est un défaut dans la prestation.
Comment ça se passe? C'est un défaut, du coup. Et qui plus est, à côté de ça, vous ajoutez le fait que je suis désolé, c'est vraiment la culture de la médiocrité. Parce que, comme disait Olivier tout à l'heure, le médecin doit faire des liens, il a des connaissances à avoir, etc., etc. S'il est recalé, c'est qu'il y a une raison en soi.
Ah oui.
Qu'il soit
de 10
points, c'est pareil au final. Ah oui.
Oui, enfin.
Ça, je me pose la question, Christophe, parce que, alors, je sais pas, parce que souvent, je lis des étudiants en médecine qui passent leur concours et qui sont recalés sur des sujets.
Des conneries, oui.
Vraiment des conneries. Donc, ouais. Moi, je me pose la question avant de savoir
si on va
aller repêcher celui qui a manqué de 0,5 points. Enfin, on peut regarder quand même dans le concours ce qui est éliminatoire.
Ouais,
faudrait quand même aller regarder.
Moi, j'ai un pote qui a été éliminé de chirurgie parce qu'il voulait devenir chirurgien. Oui. Il a été éliminé parce qu'il a fait une erreur sur les remboursements sécurité sociale. Il a fait une erreur sur l'épreuve de remboursement de sécurité sociale. Il a été viré alors que ce type avait vraiment un.
Supprimant les concours, moi, je pense.
Tu as raison.
Comme pour les profs.
Non, mais parce qu'il y a des questions qui sont adjuvantes qu'on pourrait rattraper l'année d'après.
Non, mais parlons-nous vrai. Parlons-nous vrai. On parle de médecins libéraux, même si ça vous défrise. Oui. À ce moment-là, on met en place,
dans libéral,
on met en place du service public, des médecins salariés, du service public dans les zones où on en manque. Mais on arrête de prendre les médecins libéraux pour des salariés, pour des employés de l'État. Ce n'est pas le cas. Quand tu me dis, très rapidement, mais après tout, ils sont payés par la Sécu. Non, monsieur, on n'est pas payé par la Sécu. La Sécu, c'est un assureur. C'est un assureur qui solvabilise un risque. Et dès l'instant où tu as ce risque, toi qui cotises, tu es remboursé par la Sécu et tu payes ton médecin, hormis si tu es un ALD ou un CMU. Mais au-delà de ça, si tu veux, on n'est pas les employés de l'État. Ben on fait des études difficiles. Un interne se suicide tous les 18 jours, personne ne le sait. Tous les 18 jours, un jeune interne se suicide. D'accord ? Tu as plus de 30%
déjà,
qui ont des facteurs de dépression. Tu as un médecin sur deux qui est en burn-out aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On s'imagine qu'on va obliger ces gens à aller dans des territoires qu'ils n'ont pas choisis. Donc, dans une spécialité qu'ils n'ont pas choisie.
C'est pas la réponse à notre question.
Ce n'est pas la solution au problème.
Jérôme, Étienne, on a un étudiant en médecine. Je remercie Christophe d'avoir été avec nous. C'est Florent.
Pas la solution,
Florent qui est étudiant en médecine, il s'appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Florent.
Oui, bonjour.
Salut Florent.
Bonjour à tous. Très content de vous avoir.
En quelle année?
Alors moi je suis en 4e année de médecine à Marseille.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi?
Alors moi je suis désolé, mais cette proposition de loi est débile. Ça a été faite pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une faculté de médecine, qui n'a jamais ouvert un livre de médecine. Voilà, on est épuisé. Moi, je suis en 4e année de médecine. J'ai dû doubler ma 4e année de médecine parce que les réformes sont catastrophiques. J'ai doublé ma première année puisqu'à l'époque, personne réussissait quasiment du premier coup. On est épuisé. Et là, si on devait vous rajouter 10 ans de déserts médicaux, mais vous imaginez, on finirait de travailler à 40 ans.
Excusez-moi, mais si vous ratez l'examen aujourd'hui à la fin, si vous le ratez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites?
Je saurais, quoi qu'il en soit, je suis passé dans la première année de médecine, je serai médecin. Dans le pire des cas, je serai peut-être pas neurochirurgien ou chirurgien esthétique, je serai médecin généraliste, médecin du travail, etc.
Mais si vous ratez précisément cet examen à 0,2 points près, qu'est-ce que vous ferez?
Il n'y a pas de seuil de rater aujourd'hui, il n'y a pas de seuil.
On rate ou on rate pas, mais qu'est-ce que vous ferez?
Eh ben, je ferai la spécialité qui m'intéresse, on va dire, qui restera et qui m'intéresse le plus, peut-être sûrement en médecine générale, mais c'est pas la vocation que j'ai aujourd'hui à l'heure actuelle.
C'est là où je comprends Florent et Étienne. On manque de médecins. On veut les attirer. Et pour les attirer, Madame Meunier explique, non, on va vous imposer d'aller là où vous voulez pas. C'est pas attractif. Quand tu vas attirer les gens vers quelque chose, faut rendre attractif.
C'est pas tous les médecins, visiblement. C'est ceux qui échouent seulement.
Les recaler.
Voilà. Si vous voulez attirer des médecins généralistes, déjà, comme dit le docteur Marty, augmenter le prix de la consultation. C'est la première chose. Moi, dans mon entourage, je coach pratiquement que des étudiants en médecine. Personne, quasiment, ne veut faire médecin généraliste. Voilà. Tout le monde veut faire une spécialité. Puisque, aujourd'hui, la consultation. Mais même moi, le premier, je me dis, aujourd'hui,
vous
je vais
allez faire quoi
plus de 12 ans d'études, 12 ans d'études, à minima, c'est 10 ans, plus avec mon parcours, j'ai fait 2 ans de plus. Mais je vais faire 10 ans d'études et arriver à 30 ans, on va me dire, tu vas partir en plein milieu de la Creuse. Si j'ai une copine, admettons, qui est médecin et qui est, admettons, je sais pas, moi, cardiologue, et elle est à Brest, du coup, comment on fait? Le couple, il est brisé. Comment on fait?
Mais c'est pas pour les médecins. Vous avez
Florent, c'est
le
fini.
Projet.
Merci de votre dernier témoignage, Florent, étudiant en médecine. Alors.
Merci Florent.
Est-ce qu'on envoie les recalés de la médecine dans les déserts médicaux, oui ou non, oui ou non? Très belle proposition, Madame Meunier, que l'on remercie de nous avoir fourni une belle occasion de débattre.
Meunier Tudor, non, je crois pas.
Allez, on envoie.
Résultat final, 57-43. Non.
Ça n'a pas bougé. Mais
en même temps, ça s'est partagé.
Le bureau des GG.
Madame Meunier vient de m'envoyer un message.
Le bureau des GG a rejeté la proposition. Le bureau des GG a rejeté la proposition de Madame Meunier. On est vraiment dans les trucs à la con à l'Assemblée en ce moment, quand même. Là, on va parler de la discrimination capillaire dans un instant.
À la con.
C'est pas la
voilà. Alors là, c'est Joël. Mais tu vas te retrouver toute seule, Joël.
Non, mais quand je suis d'accord.
Attendez.
Sujet. Oui, mais une loi. C'est complètement dingue.
Ah, stop. C'est parti pour le coffre.
Et on parle de discrimination capillaire.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC?
Le coffre RMC.
Alors, attention, hein, les amis, on rigole plus. Le moment est important. On a notre directeur d'antenne qui est avec nous, Grégory Caranoni. Bonjour, Grégory.
Bonjour, Alain. Bonjour à tous.
Il a quand même été embauché malgré cette coupe de cheveux.
Grâce à cette coupe de cheveux.
Grâce.
Pardon, c'est un golden coffre, vous avez vu là?
Eh, c'est net d'impôts, hein.
On rappelle. Vous vous êtes inscrit en envoyant coffre par SMS au 73216, c'est le cas de Caroline. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Aide-soignante dans l'Ille-et-Vilaine. Ma chère Caroline, vous savez que d'ores et déjà, vous gagnez 2500 euros. Ça, c'est acquis.
Bravo.
D'accord?
Ok.
Maintenant, est-ce que vous gardez le 2500 euros ou on ouvre le coffre? Et dans le coffre, une semaine de vacances pour 6 personnes dans les campings Tikayan dans le sud du pays, ou peut-être les 50 000 euros. Que fait-on?
Eh bien, je vais ouvrir le...
Non, vous avez raison, Caroline.
Caroline, n'est-ce pas?
Vous avez raison.
Oui, c'est Caroline.
Caroline, j'ai un deuxième dilemme à vous proposer. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'apporter la mallette, s'il vous plaît?
Ah, voilà. Une mallette. Coffre.
Alors, un coffre, la mallette. Je sais dans la mallette, il y a de la drogue.
Attendez, la mallette arrive.
Je sais ce qu'il y a dans le coffre, Caroline. J'ai envie d'être hyper sympa. On dit qu'on n'ouvre pas le coffre. Vous ne saurez jamais ce qu'il y avait à l'intérieur ou pas. On verra peut-être à la fin. Et je vous offre pas 2500, mais 5000 euros. On n'en parle plus. On laisse le coffre fermé. C'est vendredi.
5000 euros, c'est garanti
5
dans la mallette.
5000 euros garanti.
Faites-le.
Ouais, alors, je vais prendre les 5000 euros.
Vous prenez les 5000 euros?
Ouais, Caroline.
Attendez, parce que si Greg, qui est fourbe, on le connaît bien.
Greg est fourbe.
Et machiavélique. Est très bien peigné. Si vous propose ce deal, c'est parce qu'il n'a pas envie de perdre les 50 000 euros qu'il a mis dans
son. Non, rigolez pas avec
bien
ça.
Bien sûr.
Non, je suis pas d'accord.
Pourquoi il propose les 5 000 euros?
Faites ça.
Il faut prenez les 5 000. Je pense que c'est quelqu'un de généreux qui sait que dans le coffre, il y a pas les 50 000 et que pour Caroline, qui est aide-soignante, elle devrait repartir avec ses 5 000 euros.
Caroline,
quelqu'un qui a un peu d'estime pour moi, merci Alain.
Merci.
C'est gagnant, il faut le prendre.
Et surtout, on a un nouveau propriétaire, il faut se mettre bien avec la gueule.
Prenez les 5 000 euros.
Ouais, je vais prendre les
5 000
euros.
Bravo, Caroline.
Bien joué dans le coffre.
Non. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a dans le coffre?
Non. Mais taisez-vous, laissez-la parler,
Caroline. Moi, j'ouvrirai le coffre. Quoi qu'il arrive, c'est vous.
Voilà, il veut mourir parce qu'il sait ce qu'il y a dedans.
Alors, est-ce que.
Oui, Caroline.
Non, il faut pas.
Attends, on résume. Caroline, vous prenez les 5 000 balles, c'est sûr.
Ouais.
Oui, je vais prendre les 5 000 euros.
Quelle erreur.
Et on regarde ce qu'il y a dans le coffre.
Oui, bien sûr.
Vous n'aurez pas de regrets.
Bravo, Caroline.
Il se dit bravo Caroline, on a pas ouvert le coffre.
Bah 5 000 euros, je trouve que c'est bien déjà.
Ah oui, d'accord.
Bah oui.
Mais vous savez qu'il y avait 50 000 euros à gagner.
Non, on va regarder.
Attendez,
il n'a pas encore ouvert le coffre.
Il est très vicelard.
Mais oui, il est vicelard.
Bien sûr, quoi.
Vous savez, Caroline, que ce matin, dans Apolline Matin, l'auditrice n'a pas souhaité ouvrir le coffre.
Et
il y avait les 50 000 euros.
Ouais, je sais, je l'ai vu.
Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa quand même, peut-être, que ces 50 000 euros restent dans le coffre.
Bah peut-être, mais peut-être pas.
J'ouvre le coffre.
Alors, ouvre le coffre.
Alors.
Oh là là.
Allez-y, Alain.
Allez.
Avec Jérôme. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors attention.
Ah, c'était les vacances.
Bien joué.
C'est bien aussi les vacances Tikayan pour 6 personnes.
Bravo Caroline.
Vous avez gagné les 5000 euros Caroline.
Bravo.
Merci beaucoup.
Bien joué.
Et je regarde très souvent et continuez comme ça. Super.
Merci Caroline.
Que je ne suis pas si fourbe.
Non, merci.
Tu l'es, mais moi qu'on le pense.
Et on envoie aussi un t-shirt DGG Caroline.
C'est un bon gars.
On vous embrasse.
Donc attendez, ça veut dire que les 50 000, ça va tomber chez Moscato alors.
Ça peut tomber à n'importe quel moment.
Allez, c'est parti. Vous avez 5 minutes pour m'envoyer le coffre par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner les 50 000 euros chez Estelle tout à l'heure, ou chez Moscato, ou chez Jérôme Rotten.
Exactement.
Aussi.
Dernière chance, c'est Jérôme tout à l'heure.
C'est dangereux si c'est Vincent.
Allez, dans un instant, l'Assemblée qui a adopté la loi à la con de l'année, la loi sur la discrimination capillaire. On en parle au 32-16.
Reste un peu du con.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG. Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Étienne Liebig, éducateur en Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Jérôme Marty, médecin généraliste. et Joël Dagosséry qui est avec nous, coach de vie. On y va pour notre dernier sujet de discussion sur lequel on vous attend bien sûr au 32-7.
Sujet important.
RMC, les grandes gueules.
Merci l'année.
Dans les GG, dans les grandes gueules, on va parler de la discrimination capillaire. Vous savez, au moment où la proposition de loi est arrivée, on se demandait si c'était utile. Et bien figurez-vous que l'Assemblée nationale a voté en première lecture la proposition de loi visant à sanctionner ce qu'on appelle la discrimination capillaire au travail. Et là, on se demande quand même si on n'est pas tombé dans les lois à la con. 32-16 pour en discuter avec les GG.
Alors, c'est un vrai sujet parce que je me souviens, on avait discuté avec Joël Dagosséry, on avait eu des témoignages, effectivement, et notamment pour celles qui ont des cheveux frisés, on voit qu'il y a parfois de la discrimination. Bon, après, il y a la discrimination aussi parfois sur les blondes, etc. Il y a la discrimination sur les gros, il y a des discriminations. Bon, et d'ailleurs, ça fait partie du code du travail. Et d'ailleurs, des lois qui existent déjà, qui punit. Là, les députés ont voulu en rajouter et carrément faire voter une loi qui est passée sur la discrimination capillaire. Il y avait d'ailleurs aussi une loi sur les congés menstruels, mais celle-là n'est pas passée. C'est quand même un peu le concours Lépine en ce moment de la surenchère. C'est-à-dire que tous les problèmes de société doivent se terminer par une loi. Et c'est très américain, parce qu'aux États-Unis, c'est les grandes entreprises américaines. En gros, c'est venez comme vous êtes. Et donc, on met des chartes où on ne doit surtout pas discriminer sur l'âge, etc. Voilà. Donc, c'est très à l'américaine. Est-ce que ça doit se terminer à l'Assemblée nationale? On mobilise les députés. On sait qu'on a quand même beaucoup de problèmes en ce moment à gérer. Alors, bien sûr, comme c'est consensuel, tout le monde vote. Parce que celui qui va voter contre, on va lui montrer du doigt. Tu veux pas dénoncer discrimination. Donc en plus, c'est un peu c'est des lois démagos qui ne changeront pas grand-chose parce que de toute manière, la discrimination, c'est déjà puni par la loi. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est une loi à la con?
C'est très américain. Et d'ailleurs, les Américains, c'est la dernière puissance mondiale, on sait très bien, ils sont très bêtes et non performants.
Il faudrait surtout pas les suivre,
puisqu'ils ont eu la bonne idée de réduire justement les différences de traitement et donc de réduire les discriminations.
Tu trouves qu'il y a moins de racisme aux États-Unis
Ils ont gagné 20% de croissance, figure-toi, en faisant ça. Ils ont gagné 20% Comment de croissance en réduisant les discriminations, puisque c'est un pays qui était extrêmement discriminatoire.
Ah oui, donc
en réduisant les discriminations, voilà, ils ont gagné 20% de croissance.
Enfin, nous, on n'a pas eu la même histoire.
Moi, je m'intéresse surtout, au-delà de la moralité, etc., et on va en parler plein de fois, mais je m'intéresse au coût économique des discriminations, parce que je suis attachée à une France qui est performante, tu vois. Et le coût économique des discriminations, ça a été calculé par France Stratégie, c'est entre 80 et 310 milliards. Que ça nous coûte, en fait, de discriminer des gens. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui travaillent pas à leur place.
Personne défend la discrimination. Le débat n'est pas là. Est-ce qu'on a besoin d'une loi?
Oui, mais il faut bien prendre des mesures pour quand même la réduire et que.
Donc ça passe par la loi contre la discrimination capillaire.
Je ne sais pas, moi, je t'ai toujours dit que je suis contre l'inflation de loi. Donc si c'était moi, j'aurais pas fait une loi. Mais maintenant, elle est là et on m'explique effectivement qu'il y a des discriminations et j'en suis sûre qu'il y a des discriminations. Et donc, je dis que dans ce cas-là, intéressons-nous à ce que ça nous coûte de discriminer les gens sur la couleur de peau, le sexe, les cheveux, tout ce que tu veux, le poids, etc. Bah, ça nous coûte cher.
Rajouter l'âge.
Ça nous
aussi.
Coûte, je crois, 10 milliards d'euros. Mais
l'âge,
oui, l'âge.
Quand on vire les gens à 50 ans, c'est
exactement,
difficile dans l'âge.
Ça nous
il faut peut-être faire une loi aussi.
Ça nous, écoute, ça nous coûte cher. Donc, excuse-moi, quand tu me dis les États-Unis, c'est très démago. Ils sont pas si démago ça, ils sont pragmatiques. C'est aussi un pays pragmatique et qui a gagné 20% de croissance en faisant diminuer les discriminations.
Je vois pas d'où voilà. Dans ce chiffre.
Jérôme ou Étienne. Ouais.
Par exemple, on parlait des tatouages.
Des chauves.
C'est vrai que aujourd'hui le monde évolue. Les jeunes sont par exemple plus tatoués qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans et que il faut que tout suive. Il faut que la société avance à la vitesse à laquelle avance la sociologie. Et aujourd'hui, c'est vrai que il y a des véritables discriminations. Ceux qui ne sont pas concernés, évidemment, trouvent que c'est une loi idiote. Ceux qui sont concernés, à mon avis, ne trouvent pas que c'est une loi idiote parce que ça va garantir une espèce de nouvelle égalité entre les gens. Je parle même pas du coût économique. Alors après, il faut appliquer la loi, il faut les moyens de l'appliquer. Mais je trouve que c'est important. Tu vois, comme il est, par exemple, important que le lieu de naissance, ou le lieu d'habitation ne soit pas discriminant quand tu es embauché. Je raconte très souvent que les profs de mon fils lui ont dit, change ton adresse.
Ouais, une loi,
prends une adresse à Paris. tu auras plus de chances de trouver du travail.
De pour ça.
Et il est parti en Chine. Et effectivement,
Mais en Chine, ils connaissent pas
Noisy-le-Sec. Non, ils connaissent pas
Noisy-le-Sec. Et le, heureusement pour eux, d'ailleurs.
Non, mais je veux dire, toutes ces lois, toutes ces lois, c'est absurde de toutes ces, on peut trouver toutes ces lois absurdes, mais en même temps, je vois pas comment un pays. Non, mais on n'est pas le champion du monde. On est obligé de réguler. On est obligé de réguler. Alors après, effectivement,
il y a l'application besoin d'une loi sur la discrimination capillaire.
Est-ce que dans le code du travail, ça aurait suffi que ce soit dans le code du travail? J'en sais rien. S'il y a une loi, c'est parce que je pense qu'il y a des députés qui ont pensé que le code du travail ne suffisait pas.
Parce qu'ils font plaisir. Parce que ça permet à une députée ou un député
d'avoir une loi à son nom.
Voilà, d'avoir une loi à son nom.
Je sais pas. Moi, je trouve pas ça si idiot.
Non, mais quel est ce drôle de pays quand même qui passe son temps à créer des lois pour ne pas les appliquer, quoi. Je veux dire, on a un code civil, un code pénal, un truc qui sont de plus en plus épais, et on rajoute, et on sait qu'on ne peut pas appliquer derrière. Preuve en est que là, tu fais une loi parce que tu n'appliques pas ce qui existe déjà.
Voilà.
Et donc, tu passes ton temps à construire des maisons que personne n'habite, quoi. C'est quand même incroyable,
moi j'ai connu une époque où dans les cantines ou dans les restaurants, dise à quelqu'un, je l'ai connu, je l'ai vécu, qu'on dise écoute, tu seras plutôt derrière dans les cuisines parce que devant on veut que des jeunes filles blondes et toi comme tu es noire, tu seras plutôt derrière, je l'ai vécu.
Oui.
De réalité, c'était une discrimination qui était une discrimination due à la couleur de peau ou qui pourrait être due à quelqu'un de gros. Non, mais ça pouvait être quelqu'un de
gros. Par la loi. La question n'est pas de savoir. Le débat n'est pas de savoir si c'est bien ou pas de discriminer. Parce qu'il n'y a pas de débat. Le débat est de savoir si nos députés n'ont pas autre chose à faire. Pardon, moi j'ai l'impression que quand ils s'attaquent à des sujets sociétaux, c'est que justement ils n'arrivent pas à régler le reste. En général, c'est comme ils n'arrivent pas à régler les vrais problèmes de la France, l'Italie. À savoir la dette, le déficit, la guerre, les déserts médicaux, tout ce qu'on veut. Eh bien, ils se rabattent sur des choses. On l'a fait.
Voilà. Ça sert à rien, mais on l'a fait. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on va jusqu'où on pousse le jeu? C'est-à-dire, on fait pour les capillaires, on fait pour le maquillage, on fait pour les tatouages, on fait pour les vêtements, et à chaque fois, on fait une loi par détail.
Non, mais il y a déjà
une loi qui existe qui s'appelle la discrimination, effectivement, à l'embauche, etc. On va pas détailler à chaque fois.
Je suis complètement d'accord qu'il ne faut pas faire de nouvelles lois. Il y a une loi contre les discriminations, ça aurait pu rentrer dedans. Je dis juste que la façon dont on traite la question, comme si c'était vraiment con et comme si ça n'existait pas, alors qu'en fait il y a des gens, effectivement, d'ailleurs il y a eu un steward qui a été condamné, Air France a été condamné pour son steward qui était, donc c'était pas une discrimination à l'embauche, il était déjà embauché, mais il vivait une discrimination à l'intérieur de déjà embauché. Donc,
c'était ses cheveux.
On l'obligeait à porter une perruque. Steward
frisée blonde, c'était étonnant.
Peut-être qu'un jour on obligera les médecins à porter des perruques.
Horrible, qui était complètement horrible en plus.
Non mais
donc ça existe. Alors moi je suis pas contre pour la loi, mais il faut pas traiter ce sujet comme si c'était un truc marginal.
Après, on a droit quand même d'imposer des codes vestimentaires dans les métiers, parce que j'ai l'impression aussi qu'on est aussi dans la dérive. Je viens comme je suis et allez vous faire foutre. Pardon, je suis désolé. Il y a dans des boutiques, dans une boutique de luxe, et je me souviens c'est Charles Consigny qui avait pris cet exemple. Exemple, dans une boutique de luxe, ça me choque pas que les employeurs demandent à ceux qui sont là, les vendeuses ou les vendeurs, d'avoir une tenue, d'avoir une façon de s'habiller, etc.
Dans les
hôpitaux,
dans les cliniques,
mais
quand tu qualifies de négligé, par exemple, une personne qui porte ses cheveux naturels, une personne noire qui porte ses cheveux naturels,
non mais si,
il a pas dit ça,
il a eu souvent ça,
non,
c'est-à-dire qu'on va considérer qu'elle est négligée, donc on va l'obliger à attacher ses cheveux ou à les lisser, alors qu'une personne caucasienne va pouvoir les lâcher.
Non, j'ai jamais fait cette différence-là. Je dis, mais d'exiger d'une personne d'être bien habillée, d'être propre, de le dire soit rasé.
Non, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, Olivier. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est parce que tu prends cet exemple tout à fait logique, mais tu le mets au même niveau que les cheveux. C'est-à-dire qu'en même temps, mais si, puisque tu en parles sur ce sujet, et je comprends ce que tu dis. Effectivement, l'employeur est en droit d'exiger une tenue correcte.
Oui, en fonction de ce qu'il vend.
Mais ça fait rentrer ça fait rentrer le capillaire dans ce qui serait une tenue correcte. C'est-à-dire qu'on estimerait qu'il n'est pas correct d'avoir des cheveux afro, par exemple, parce que on considérait que ça rentrerait comme si on était en short. Or, c'est justement pour ça qu'il y a une grande distinction. La distinction, c'est que avoir le droit.
Donc c'est uniquement pour les cheveux afro, cette loi, alors. Donc, si je comprends bien.
Quel
est l'autre exemple? Parce que, si je comprends bien, la seule discrimination capillaire, c'est les cheveux afro.
On va en parler avec Delinda qui est avec nous. Bonjour, Delinda. Delinda de Savoie, ma chère, vous êtes cadre commercial. Est-ce que c'est une loi à la con ou pas ?
C'est une loi à la con, comme je disais au standard. C'est pour cacher les sujets sociétaux actuels qui sont gravissimes. La guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, la mauvaise organisation des JO. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour cacher ça ? Moi, on va sortir des sujets comme ça y est, comme ça.
C'est les députés, c'est pas le gouvernement.
Attendez, je finis. J'ai 52 ans, j'ai des origines méditerranéennes et maghrébines. J'ai une chevelure jusqu'à la croupe, frisée, bouclée. Je n'ai jamais eu de soucis capillaires. Je les lâche, je les brush, je fais tout ce que je veux avec mes cheveux. Ça a été plus un atout de ma personnalité en tant que commerciale qu'un défaut. Alors, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger.
Votre employeur ne vous a jamais fait de remarques, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. Jamais.
Mais Delinda, vous savez que les lois, elle est pas faite. Une loi, elle est jamais faite pour chaque Français qui a eu ce problème-là. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce problème. Vous l'avez jamais eu. Mais ça, c'est pas dire que le problème n'existe pas. Et ensuite, ça cache rien du tout, parce que l'Ukraine, les JO, la Russie, c'est tous les quatre matins. Enfin, je veux dire.
Mais c'est pas les députés, madame, c'est pas le gouvernement, c'est pas Macron qui a dit on va faire une loi. Ça a été une loi qui a été proposée par un député. Et en plus, pas un député qui est un député qui veut qu'on oublie le reste.
Un député guadeloupéen, en plus.
Député guadeloupéen qui a simplement voulu parler de ça parce que ça, il est directement concerné. Donc, on peut pas dire que c'est pas comme si c'était le ministre en personne qui l'avait proposé. La personne n'a intérêt à ce qu'on oublie le reste.
Mais quand savons-nous?
Savons-nous
que c'est pas plus haut qui ont décidé alors je suis pas complotiste du tout hein.
Non mais le gouvernement
qu'on s'est pas dit au plus haut on va sortir des sujets comme
ça. On va aller chercher ce député qui n'est même pas de la majorité.
Parce qu'il y avait consigne et d'ailleurs c'est consigne de voter cette loi, d'ailleurs tout le monde l'a pas voté.
Première lecture, Abzou adopté. Mais Delinda, vous allez voir, restez à l'écoute des GG parce que dans un instant on sera avec Marielle du Val-de-Marne, Delinda.
Elle a les yeux bleus.
La chanson, c'est
Belinda, oui. Belinda.
Marielle, qui est dans le Val-de-Marne, qui est agent hospitalier. Et Marielle, agent hospitalier dans le Val-de-Marne, la discrimination capillaire.
Elle connaît.
Il connaît. Allez, à tout de suite.
RMC. L'après-midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On parle de la loi sur la discrimination capillaire qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. C'était une proposition du député guadeloupéen Olivier Servat qui fait partie du groupe Liotte. On va en parler avec Marielle dans un instant, mais ce matin, on a eu une petite démonstration en direct sur RMC, RMC Story de ce que peut être la discrimination capillaire, ou plutôt de ce qu'est une chevelure. C'est Charles Magnien qui a tout le temps les cheveux attachés.
Les cheveux longs.
Voilà. Regardez, écoutez.
Et ça ressemble à quoi, Charles Magnien, avec les cheveux détachés?
Alors, c'est pour toi, Manu.
Allez.
Ma mère va m'engueuler parce qu'elle veut pas que je le fasse.
Ah bon?
Mais moi, ça a l'air très beau, ça se voit.
Mais oui, il y en a beaucoup trop. Je sais pas si ça se voit à l'antenne, mais oui, il y a beaucoup de cheveux.
C'est magnifique.
Je vais vous dire pourquoi je les attache. Parce que si je les détache, on parle plus que de ça. C'est aussi le problème et on essaye de faire de l'info, de parler de choses sérieuses et le risque, c'est qu'on s'attache trop à ça.
Si je fais l'info avec les cheveux défaits, on écoutera plus ce que je dis, on fera attention juste à ma tignasse. Est-ce qu'à ton avis, c'est vrai ça? Occulte le reste dans ces cas-là.
T'as plein de femmes qui sont arrivées au bureau avec le cheveu afro et ça a occupé toute la journée, quoi. Enfin, en réunion, dans les couloirs, etc. Enfin, on ne parle plus que de ça, alors qu'en fait, elle est juste venue coiffée.
Oui, mais Joël, c'est pareil. Si à BFM TV, un présentateur arrive avec une cravate bicolore ou multicolore, on ne regardera que ça. C'est pour ça que d'ailleurs, sur BFM TV, les présentateurs ou les présentatrices ont des choses assez neutres pour justement.
On s'attache à l'information.
Donc,
j'y vois pas forcément de discrimination.
C'est un autre métier, là.
Alors, on va en parler avec Marielle du Val-de-Marne. Bonjour.
Bonjour.
Alors,
bonjour,
expliquez-nous, Marielle.
Bonjour, moi j'ai 51 ans, je suis agent hospitalier donc. Et j'ai toujours eu des remarques sur mes cheveux. Alors, évidemment, historiquement, par rapport à mes parents, on les lissait pour faire bien, parce que ça faisait plus propre, plus joli. Et quand moi, j'ai choisi, à un certain âge, d'avoir des locks, je me suis pris, au niveau de mon travail, des volets de « Ah, mais t'as pas un joint, ah, mais t'as pas un tulle, ah, mais... » Mais alors que je ne bois pas, je ne fume pas, je me tape des réflexions, et que mes locks, ça fait pas crado rasta du dernier coin, quoi. À chaque fois, on me ramène à ça. Mais hyper souvent. Donc cette loi, elle est peut-être pas importante dans le moment présent, mais elle marque quand même que on peut avoir une coiffure qui ne représente pas forcément ce qu'on est. Moi, je suis pas rasta. Enfin, j'ai des locks, mais je ne suis pas une rasta.
Elles descendent jusqu'où ? Ça descend jusqu'où, ces locks ?
Elles sont pas très très longues, elles sont au niveau des épaules.
Mais là, c'est des préjugés, en fait.
Ouais. Mais exactement.
C'est des préjugés liés à une coiffure. On pense effectivement, quand on a les dreads, on fume des joints. Bon,
c'est quand on a les cheveux bouclés, frisés. Enfin, moi, j'ai une fille qui a les cheveux crépus, très frisés, très longs. Et tout le temps, elle s'attache les cheveux ou elle les a lissés parce que.
Est-ce que c'est vraiment très grave, sincèrement?
Quand vous êtes petite, quand vous êtes petite, que vous entendez ça tous les jours, que votre coiffure va pas, que ça.
T'as juste pas le droit d'être ce que t'es, quoi.
Exactement, Étienne. On n'a pas le droit d'être la représentation de ce qu'on est réellement.
Ça peut être très grave pour un enfant.
Forcément être autre chose.
Oui, ça peut être un marqueur.
Oui, puis ça aussi permet de grandir et s'affirmer sa personnalité.
Quand on a les locks, quand on a les cheveux qui vont pas, on fait comment, en fait? Tout le temps, faut qu'on justifie quelque chose.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison.
Mais bien sûr, et puis après, tu dépenses 300 euros par mois dans des produits, etc.
Est-ce que ça vous pénalise dans votre carrière, Marielle? Dans au boulot, ça vous pénalise?
Alors moi aujourd'hui non, mais je me suis fait des réflexions de chef de service comme quoi vous pourriez aller vous coiffer, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci, mais ça arrive.
Oui, mais je sens que vous êtes une femme de caractère, Marielle. Vous êtes capable de les envoyer paître.
Mais moi, j'en suis capable. Mais la collègue à côté,
Et Marielle, on doit encore rappeler qu'un jeune est décédé à l'hôpital. Il avait des locks et qu'on a soupçonné qu'il était un fumeur de drogue, etc. Exactement. Alors qu'il souffrait sur son brancard et qu'il est décédé. Donc oui, il y a des conséquences.
La loi va protéger de ça. Non, c'est des préjugés à la con. Ça existe. Mais c'est pas la loi.
Non, la loi fait rien.
Non, mais la loi va pas protéger ça. Mais la loi met en lumière. Elle l'a dit, Marielle. C'était peut-être pas la loi hyper importante à faire maintenant. Mais elle met en lumière un problème quand même qui est là, qui est récurrent et qui emmène à la mort parfois. Donc excusez-moi.
Marielle, parce que on a un autre témoignage, celui de Sylvie, qui est retraitée de chez Air France. Bonjour Sylvie.
Bonjour, bonjour l'équipe.
Bonjour Sylvie.
Alors, est-ce qu'on avait besoin d'une loi sur la discrimination capillaire ?
Alors, honnêtement, moi j'ai fait ça 11 ans au PNC. Et quand vous rentrez PNC Air France, vous avez un règlement. On vous dit, vous avez des cheveux pour les femmes, les cheveux jusqu'à une certaine longueur. Sinon, après, vous les attachez. Les ongles de telle couleur et pas des couleurs neutres. C'est un règlement. Pour les hommes, c'est pareil. Moi, ça me choque pas. Il y a un règlement. Si tu n'es pas content, ça ne te convient pas, tu changes de métier. C'est une dérive. Ça fait partie du règlement de l'entreprise. On l'accepte.
Non, mais ça c'est un peu différent.
C'est pas pareil.
Ça me dérange pas les dreadlocks. Ça me dérange pas du tout. Mais ça fait pas partie du règlement, donc on l'accepte.
Non, il n'y a pas de règlement. C'est pas la même chose. J'ai pas dit que ça faisait pas partie du règlement. C'est juste qu'on me faisait remarquer mes cheveux étaient corrects, propres. Je suis vraiment coiffée. C'est pas la question. D'accord. C'est juste que ça ramenait à chaque fois au fait que je fumais ou pas.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de règlement pour ça.
Marielle, je voulais pousser le raisonnement un petit peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui votre attachement à vos cheveux vous empêcherait d'aller postuler, par exemple, dans une entreprise comme Air France où il y a un code vestimentaire, un code capillaire?
Je vous rejoins là-dessus. J'ai un collègue qui passait des examens en interne, dans l'hôpital dans lequel je travaille, qui était loxé, qui s'est rasé la tête parce que ça passait pas au niveau des examens.
D'accord.
Il passait ses examens d'infirmier. On lui a dit que ça allait pas aller.
D'accord. Il a accepté le règlement. Il a rasé sa tête.
Je trouve ça un peu. Il l'a fait. Mais on est quand même un peu en 2024.
Bah oui, quand même.
Quoi.
Et Sylvie, du coup, est-ce que ça vous prive, du coup, comme le disait Joël tout à l'heure, peut-être que ça prive de candidats, ça prive de pouvoir embaucher du monde aussi, Sylvie.
C'est possible, moi, à partir du moment...
Les desserts médicaux.
Soit on change un règlement, et ok, on accepte les dreadlocks, moi, ça ne me pose pas de problème, mais je pars du principe que si un règlement, il faut... on l'accepte.
Mais voyez, les dérives, maintenant qu'il y a une loi... Mais maintenant, Sylvie, qu'il y a une loi, il y aura des dérives. Il y a des gens qui vont, parce que c'est toujours pareil, il y en a qui vont vouloir tester les choses, donc ils vont arriver avec ce règlement, dire ah oui, mais vous respectez pas la loi anti-discrimination capillaire, et donc on va être dans les procédures. C'est vraiment à l'américaine. On est dans un truc, on est les mauvais côtés de la société américaine.
Les tatouages, ça passe, Sylvie ?
Non. Alors, les tatouages doivent être cachés.
D'accord. Si il ne faut pas les avoir sur les mains, quoi.
Mais les chauves, on y pense.
D'accord. Mais les chauves, on y pense parce que depuis 20 minutes, là, on parle de discrimination capillaire.
Il n'y a pas de discrimination sur les chauves.
Avec Étienne, nous, on a pas de cheveux.
On n'a pas de discrimination.
On n'en aura plus jamais. On en souffre, personne n'y pense.
Mais les
gens. Là, on parle d'un problème qu'on ne connaîtra plus jamais, nous.
Mais victime de discrimination.
C'est même à la mode.
Je ne sais pas.
On peut à la limite en souffrir.
C'est caché souvent. C'est caché, tu vois.
Si, d'ailleurs.
On t'imagine avec des cheveux ce que tu
dois faire.
Donc non.
Mais je pense que.
Faut pas nier.
Je pense que beaucoup de chauves ça peut les desservir. Je sais pas, dans certaines professions, dans certains milieux, parce que va voir les greffes de cheveux comment ça cartonne sur les chauves, tu vas voir. Je pense que beaucoup de chauves. Je pense que beaucoup de chauves savent que. Un complexe, pourquoi ? Parce que la société te renvoie quelque chose.
Joël, moi j'en ai marre. Pardon, société de pleurnicheurs, de pleurnicheries. Ah, mais moi aussi, plein de choses qui ne vont pas chez moi, mais tu t'acceptes comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Vous avez qu'à être open mind. Et regarder, oui, il faut être open mind. Exactement. Et recruter les gens sur leurs compétences et pas dire, ah oui, toi t'es chauve, alors t'iras pas bien en tant que commercial. Dommage, ça aurait été un super commercial, mais il a 55 ans et puis il est chauve.
Tu seras pris, tu te bats.
C'est pas vrai.
Mais t'arrêtes de
pleurnicher. Mais on le sait très bien. Pourquoi est-ce que les gens de 55 ans galèrent?
Le monde actuel, c'est ton monde.
Je suis victime.
Je suis victime.
Ah ouais, il n'y a pas de victime. Les seniors, ils ne sont pas victimes de discrimination.
J'ai de longs bons points, je suis victime.
Il y a aujourd'hui, tout le monde dit que c'est très difficile pour un senior de plus de 55 ans d'être embauché.
C'est vrai que les lois ont été très utiles.
C'est une discrimination.
Oui, ça c'est vrai.
C'est pas dû à sa
personne.
Ça c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Faut le nier. Donc c'est de sa faute. Il n'a pas le droit de
se faire. Ça coûte combien des seniors au chômage?
Regardez, résultat final.
Il faut le dire.
Résultat final, discrimination capillaire. Je remercie Marielle et Sylvie d'avoir été avec nous. Est-ce que c'est une loi la con?
Monsieur.
Oui, à 89%.
On a perdu.
Très très beau score.
C'est un beau score.
On est arrivé à s'engueuler sur ça quand même.
On est des
champions du monde. Hein.
C'est la faute des députés.
C'est la faute des députés.
On est des champions du monde quand même.
J'aimerais bien qu'ils trouvent des moyens d'en remplir les caisses.
On se retrouve lundi de Pâques.
Ça va être dur de faire mieux que nous.
Lundi de Pâques avec Barbara Lefebvre, Bruno Poncet et Mehdi Ghezard.